get that thought? Will I be sold or bought? Is it a waste of time? Caring about what's mine? What's mine in the blackness of time? What is mine? What is mine in the blackness of time? What is mine? What is mine? And is that worth a dime? What is mine? What is mine in the blackness of time? Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago by now, I thought we would know. Long ago.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2 FM, et vous venez d'écouter Births de Bukowski. Lisa Boyle de Dallas Frasca et Where Do We Go From Here de Fiction Plane.
Bon, ça fait plus d'un an qu'on te le dit et t'as déjà certainement fait deux ou trois chèques, reversé tes manches de punk à chien, sacrifié ton RSA ou mis en place un virement automatique. Bref, jusque-là, t'as assuré. On est super touchés parce qu'on a déjà amassé un bon petit pactole. Mais là, chers auditeurs, on a encore besoin de toi. On va acheter notre local. Ouais, le nôtre. Et c'est maintenant là, là tout de suite, c'est imminent, septembre, enfin...
Well, I'm gonna tell you. bonjour. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu en direct. C'est Patchworld. Moi, on est en train de papoter avec Lilith Martin et les autres qui sera présent donc à 17h. Donc ici, c'est Patchworld tous les vendredis de 16 à 17h. Et puis on commence comme ça tranquillement avec peut-être un changement de temps là qui arrive pour ce début de week-end. Première petite info, ce vendredi à La Marquise, en première partie, donc ce soir, en première partie de Moonchild à 20h30, c'est gratuit, on joue avec Tisiphone. Voilà ce qu'on m'envoie comme message, donc c'est Tisiphone qui joue en première partie des Moonchild ce soir à 20h30 et c'est une sorte de résidence à l'épicerie moderne, voilà. Ah non, pardon, c'est à La Marquise. Et on sort d'une résidence, pardon, ils me disent on sort d'une résidence, ok, ça marche. Donc c'est ce soir à La Marquise, voilà, je vous lis vraiment le texto en direct tel quel. Donc Tisiphone et Moonchild, c'est gratuit, 20h30, La Marquise, c'est ce soir. Et ceux qui ne savent pas ce qu'est La Marquise, en fait, c'est une péniche qui est quai aux Gagneurs dans le 3e, donc le long des berges du Rhône. J'ai retrouvé le papier, c'est le théâtre de l'Uchronie et c'est donc pour la saison 2015-2016, c'est 19 rue de Marseille, dans Lyon 7e et c'est pour un spectacle qui s'appelle Eric et Satie, c'est la compagnie Le Ver à Soie avec Frédéric Verchour et Fenella Froissart. Donc ça dure 50 minutes, les tarifs c'est 14€ et 9€, c'est les 7, 8, 9 et 10 octobre à 20h30. Le renseignement c'est www.théâtredeluchronie.fr. Et voilà. Et donc c'est Eric et Satie, une expérience musicale, chorégraphique, visuelle et sonore et poétique autour du personnage d'Eric Satie et de son époque. c'était le groupe Backroads. Et les Backroads donc organisent aussi des concerts de reprise, des tributes, des rock tributes. Donc c'est aussi une boîte de production. Les Backroads Productions organisent avec le Jack Jack à Bron le Lyon Rock Tribute Fest les 2 et 3 octobre. Donc ça démarre ce soir. C'est des soirées pop rock. Donc ce soir c'est Tribute U2, Police, Téléphone et une soirée hard rock samedi. Donc demain Tribute Thin Lizzy, Deep Purple et Motorhead. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Tapez Lyon Rick Tribute Rock. Pardon. Lyon Rock Tribute Fest 2. Voilà, les Backroads. Et là, c'est vraiment leur compo à eux. Écoutez Eldon, c'est extrait d'un morceau qui s'appelle Électronique Guérilla et le titre ici c'est Zind avec un Z. C'est enregistré au Schizo Studio à Paris et donc le compositeur s'appelle Richard Pinas. Compositeur que vous écoutez ici s'appelle Jesper Nordin. Je vous ai fait écouter juste un extrait, ce qui est la pièce un peu longue, elle dure 11-12 minutes et j'aimerais vous faire découvrir d'autres choses. Donc c'est Le Cri du Berger, ça date de 2004 et au violoncelle c'est Benjamin Cara. Donc il y a c'est du live et aussi avec de l'électronique. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Donc Jesper Nordin est né en 1971 à Stockholm, c'est un compositeur suédois important. Il a un succès international. Donc c'est un CD que m'a prêté Marc. Je remercie Marc de m'avoir fait découvrir sa discothèque. Je vous ferai écouter d'autres choses. Donc je vous lis un petit peu dans la pochette ce qu'il y a. Si son ancien professeur par Lindgren fut dans les années 80 de ceux qui en Suède firent que l'on put parler d'un retour de l'oreille par la numérisation, il a quant à lui franchi un pas de plus dans cette direction. L'oreille n'est pas seulement revenue chez Nordin, elle domine. Une autre ligne qui mérite d'être considérée dans le cas Nordin est celle qui remonte à la fin des années 50, lorsque Giacinto Celsi jouait avec la musique sur son keyboard Ondiallo, qui permettait d'obtenir des micros intervalles. La majeure partie des œuvres de Celsi sont des transcriptions et des arrangements de ses improvisations. Ne peut-on pas voir l'ombre de Celsi dans la lumière de l'écran de Nordin ? On commence maintenant à y voir plus clair. Depuis des années, en effet, Nordin s'est occupé de musique d'improvisation. Et c'est quelque chose que rappellent ses compositions. Celsi est central pour lui, peut-être moins pour les éléments de son unique mais changeant, davantage pour les avancées de l'italien dont a su tirer profit l'école spectrale française. Les années d'études de Nordin en France à l'IRCAM l'ont justement mis en contact avec l'ensemble itinéraire des spectros. Le fait est que tous les morceaux du disque sont écrits par des musiciens français et dans des institutions françaises telles que Le Gramme et Artzoid. Deux éléments encore pour compléter le tableau. Tout d'abord, Jesper Nordin est issu d'une très vieille famille de violoneux dont les racines musicales remontent au moins au XVIIIe siècle dans la province de Jämtland. Ensuite, il a fait ses premiers pas musicaux dans un tout autre contexte, dans celui du punk. Il semblerait que ce soit là des univers musicaux impossibles à concilier. Mais dans le cas de Nordin, il s'agit d'une énorme banque sonore, où puiser, où peut-être faudrait-il parler d'un corps résonance, d'une composition fort complexe, même si les références apparaissent en partie différentes. On peut faire une comparaison avec la libre errance de Fausto Romitelli entre les chants musicaux et sonores, un mélange de styles où se dissolvent les styles. La violence n'est pas rare dans l'univers musical de Jesper Nordin, mais c'est une violence qui, tout à la fois à sa beauté, et laisse une large place à la beauté tranquille, éthérée. La musique est si peu calculée, elle s'entend toujours et par là même se reconnaît. Chaque ton, chaque son a sa propre acuité et sa propre expression. Voilà, je viens de vous lire un passage de la pochette de ce CD de Jesper Nordin qui s'appelle « Pendant ». Et là, c'était « Le cri du berger », en tous les cas un extrait.
Thank you.
écouter un extrait de la tribu Hérisson et c'est Serge Sana qui a composé ce morceau qui s'appelle Bendir, qui dure 6 minutes, qui est enregistré en septembre 2001 au Brise-Glace. Cette fois, je vais vous parler de Henri Gougaud, qui est un conteur exceptionnel. Et cette fois, il est sorti donc en livre audio et il est lu par l'auteur. Donc c'est un extrait d'un conte qui s'appelle « Les sept plumes de l'aigle ».
Tous les matins, je bourrais mon cartable de riz, de pain, de légumes. Je prenais sagement le chemin de l'école. Et dès que les fenêtres derrière moi ne pouvaient plus me voir, je fonçais dans la première ruelle qui descendait vers la rivière et je dévalais comme une bombe. « Maman !» Elle apparaissait sur le seuil de la cabane. Je bondissais dans ses bras. « Negrito mio !» Ces retrouvailles, c'était mon alcool, mon lait, ma messe quotidienne, mon oxygène céleste. Elle me serrait contre elle, j'étouffais de bonheur entre ses seins. Elle me caressait partout sous la chemise. Parfois, elle me disait « Toi, fils, caresse-moi ». C'était doux et simple. Nous ne vivions pas à nos troubles. Elle me disait « Tu sens comme c'est tendre, touche mon cou ». N'appuie pas, touche à peine, tu sens, c'est mon sang qui galope. Je lui répondais, non, maman, c'est le mien qui cogne au bout des doigts. Et je me retenais de respirer pour mieux sentir. Elle me disait, écoute. Et j'écoutais son cœur. Elle était innocente autant que je l'étais. Sans qu'elle ni moi n'en sache rien, elle m'apprenait l'art de vivre à l'affût des mystères qui partout palpitent dans nos corps. Après ce temps de jeu, j'étalais fièrement mes provisions sur la table. Nous mangions, puis je l'accompagnais à son travail de lavandière. Elle me parlait sans cesse. Elle me disait « Tu dois entrer dans la nuit comme un chat et dans le jour comme un lion. » Elle me disait que la nuit était la face cachée du jour, que je pouvais traverser la nuit en plein jour si j'apprenais à me glisser dans les ombres, et que la nuit, si je voulais goûter le jour, il suffisait que je marche dans la lumière de la lune. Elle me disait « La nuit, n'oublie pas le jour. Le jour, n'oublie pas la nuit. Chaque être porte en lui un jour et une nuit. Goûte les deux, Negrito mio. » Elle me parlait aussi de la vie de l'eau. Elle me disait que les scintillements, les vagues, les murmures, les tourbillons, la force de l'eau étaient l'œuvre de petits êtres infatigables que le vent amenait du ciel. Parfois, nous allions visiter les fleurs. Elle me disait « Écoute-les. »« Mais, maman, il n'y a pas de fleurs, il n'y a que des feuilles. »« Eh bien, écoute les feuilles. C'est pareil. Ce sont leurs cousines. Tu peux entendre les fleurs dans les feuilles. » Je fourrais ma tête dans la verdure. Je n'entendais rien que des bruissements. « Alors, me disait-elle, qu'est-ce qu'elle te raconte ? » ?»« J'ai inventé une histoire. » Elle riait. Elle me disait « Elle te parle vraiment, hein ? Elle te parle !» Elle me battait parfois. N'allez pas croire que j'étais sans cesse auprès d'elle comme un coq en paradis. J'étais un enfant turbulent. Mais elle ne se souciait guère de mes humeurs, de mes manquements à la morale, de ce que d'ordinaire nous appelons des fautes. Une mère, chez nous, n'a qu'indulgence pour ces choses-là. Elle sait être patiente. Elle ne veut pas voir son fils courber le dos comme un coupable, Dieu garde. Que son garçon s'avance hardiment dans le monde, voilà sa fierté. Pour une indienne, seuls ceux qui mettent en danger la survie de son enfant méritent d'être inscrits en lettres rouges dans sa chair. Les raclées de ma mère n'étaient pas des frôlements d'oiseaux. Elle cinglait, et rudement. Mais elle ne laissait que des traces utiles. Chaque volée d'ortie me disait « Souviens-toi ». Souviens-toi du feu, souviens-toi de l'eau, souviens-toi des branches mortes, des dangers sont cachés dedans. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. En me battant le cul comme linge au lavoir, ma mère allumait des signaux d'alarme au bord des pièges à venir. Elle gravait là, sur mes fesses pourpres, des mémoires chaudes, aussi chaudes et vivantes que mon sang. Car les Indiens distinguent deux sortes de souvenirs. Les froids et les chauds, qu'ils appellent « mémoire ». Les souvenirs froids sont faits d'informations, ils disent ce qu'ils savent, rien de plus. Qui dit que deux et deux font quatre ? Un souvenir froid. Les civilisés ont la religion de ces sortes de souvenirs. Ils les cultivent, ils les accumulent. Ils savent faire d'eux des outils redoutables. Les primitifs les utilisent volontiers, mais ne les estiment pas plus que des traces mortes. Ils préfèrent les mémoires chaudes, les instants survivants du passé qu'il nous arrive d'évoquer et qui viennent à nous comme ils sont, avec leur poids de douleur ou leur frémissement d'allégresse, avec leurs larmes, leurs parfums. La tête se souvient, les sens ont des mémoires. Le corps, de haut en bas, des orteils aux cheveux, est un village de mémoires. Peuplez ce village de mémoires alliées afin que la vie soit bien défendue, bien servie. Voilà, selon l'école indienne, la meilleure façon de construire un homme. L'encombrer de savoirs inutiles, de croque-mitaines, d'inquisiteurs, merde Dieu, c'est le nourrir d'ordures. Les servantes de mon père, le soir, dans ma chambre, me racontaient des histoires terribles. Je m'endormais dans des ténèbres traversées de manos negras, de démons, de fantômes. Si tu n'es pas sage, gare au diable. Si tu es impur, Jésus te punira. Voilà ce que me disait, quand je fermais les yeux, ma chair de poule et mon cœur battant comme le tocsin du jour des morts. Savez-vous ce que j'ai fait ? Un dimanche à l'église, pour que le diable cesse de me tourmenter, pour que la main de Dieu m'épargne, pour vivre enfin à peu près tranquille. J'ai volé une bouteille d'eau bénite. Je l'ai emportée sous ma veste, après la messe. Je me suis senti ce jour-là une âme de guerriero. J'ai pu ainsi, sans trop d'effroi, me laisser aller à mes débordements. Dès que j'avais lâché un juron, une insulte, un mensonge, je courais à ma chambre où je gardais ma fiole, je me lavais la bouche, je me gargarisais et je pouvais la tête haute m'en retourner parmi les miens. Mais il m'arrivait aussi, et fréquemment, de commettre le péché de masturbation, crime que j'estimais passible, d'après ce qu'on m'en avait dit, de dégradation sur le front des troupes, d'exposition à la vindicte publique et d'ensevelissement final sous les foudres du ciel et les cailloux du peuple. Hélas, je me masturbais avec un entrain infatigable, invétéré, et pour tout dire enthousiaste, à 12 ans, ces sortes de prières païennes vous occupent soir et matin. Dès ma mauvaise action perpétrée, je m'inondais 3 fois le sexe et la main coupable, 3 fois. Ma consommation d'eau bénite en fut bientôt torrentueuse. Je suis devenu un voleur émérite. Il a fallu, pour que cessent mes larcins, que Dieu et le diable ensemble décident, une nuit, de me briser. Depuis 3 jours, la tempête inondait les rues et faisait trembler la maison. Depuis 3 nuits, la figure dans l'oreiller, la couverture sur la tête, le dos bombé comme un arabe en prière. J'imaginais d'épouvantables batailles d'ogres nuageux déferlant sans cesse contre les murs de ma chambre et menaçant de m'envahir dans un grand brisement de fenêtres. Je dormais pourtant. Je devais rêver à ces fantasmagories car je me souviens m'être réveillé en sursaut. On cognait à la porte. Je me suis dressé sur le lit, les yeux grands ouverts dans le noir. Ce n'était pas la pluie ni l'ouragan, c'était un homme. Il appelait entre les coups de heurtoir tandis que roulait le tonnerre. « Monsieur, monsieur !» Les pas de mon père ont traversé le carrelage de l'entrée, suivis des petits cris effrayés de Doña Rosa, la cuisinière, puis du ferraillement de la clé dans la serrure. Un soudain rugissement de bourrasque a envahi la maison. Dans ce rugissement, j'ai entendu une pauvre voix qui disait « Venez vite, monsieur, votre femme se meurt. » Ma mère. Je suis sorti dans le vestibule, une bouffée de vent m'a pris par le travers, j'ai aperçu Doña Rosa, elle me regardait, les mains sur la figure. Mon père était sur le seuil, il venait de chausser des bottes, il a noué la ceinture de l'imperméable qu'il avait passée sur son pyjama, il a hésité un instant à partir, puis il est venu à moi, en 3 enjambées furibondes, il m'a empoigné le bras, il m'a jeté dans la chambre sans un mot et il a verrouillé la porte. Sans doute ai-je hurlé. Cogner des poings, je ne me souviens pas. Je sais que je me suis assis sur le plancher au milieu de la chambre et que j'ai agrippé ma tête pour qu'elle ne soit pas emportée par les galops qui traversaient l'espace, les criaillements des femmes, les voix des hommes, haletantes, voilées de deuil. Du dehors me venaient des coups de vent semblables à de grands claquements de lessive céleste, des roulements de chariots dans les nuages, des cavalcades sans chevaux. Dieu du ciel, comment ai-je survécu? J'étais seul, perdu dans la dernière nuit de la terre, environné de tant de vacarme que j'entendais à peine les couinements qui sortaient de ma bouche, tout mouillé de sanglots, et appelait ma mère. Me voyait-elle? Oui, elle me voyait. Je me souviens de son regard au-dessus de mon crâne, immobile dans un nid de silence au cœur du tourbillon. Oh, la douleur du monde! Comme nos âmes doivent être vastes pour la contenir, et comme elles sont magnifiques pour résister à la perdition, cette bête au ventre sans fond qui erre dans nos décombres, quand la tête et le cœur sont pareils à une ville bombardée et que le malheur semble définitif. C'est à ces heures misérables qu'elle nous vient dessus. Elle est toute d'ombre, sa gueule est répugnante, mais on n'a plus la force de la craindre, elle est moins terrifiante à tout prendre que la souffrance que l'on endure. A-t-elle jamais flairé votre odeur? Avez-vous jamais senti son haleine sur votre nuque? Nous nous sommes rencontrés, elle et moi, cette nuit-là. Elle me connaît, et je la connais. Elle m'a grondé autour, elle est entrée dans mon corps, elle l'a visité, et elle est partie. J'imagine que je n'étais pas mangeable. Quand le jour s'est levé, j'ai ouvert les volets, j'ai appelé encore, j'ai éraflé mes joues et mes tempes à tenter d'enfoncer mon visage entre les barreaux de la fenêtre. Il y avait des gens dans le patio. Ils semblaient ne pas me voir. Doña Rosa est venue me porter à manger. J'ai appris d'elle qu'un poteau foudroyé était tombé sur le toit de la cabane, au bord de la rivière, qu'il l'avait crevé et qu'il avait tué ma mère. J'ai appris qu'elle m'avait voulu auprès d'elle à l'instant de mourir. Qu'a-t-elle dit, Rosa? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, « Negrito, Negrito, je ne sais plus quoi encore. Seigneur Jésus, pardonnez-nous, pauvres pécheurs. » 3 jours. 3 jours durant, je suis resté enfermé. Qu'ai-je fait tout ce temps? Comment le savoir maintenant? Ma mère est toujours infiniment présente dans ma vie, mais sa mort est loin. Quand mon père est revenu du cimetière, il a ouvert la porte de ma chambre. Il est resté un moment immobile sur le seuil. Il était immense, un peu voûté. Il y avait derrière lui du soleil éblouissant. J'ai attendu qu'il vienne à moi. Peut-être ai-je fait un pas vers lui. Je ne sais pas s'il m'a regardé. Son visage était dans l'ombre. Il s'est détourné et il a donné des ordres aux femmes dans le vestibule. Le temps m'a aidé à faire la paix avec lui. Le sait-il? Je crois qu'il était venu au monde avec un fardeau qu'il pouvait à peine porter. Il n'a pas su s'en défaire, comme il a dû mourir fatigué. Il n'a pas pu m'aimer. Il n'a pas eu la force. Dites-moi donc si vous pourriez, vous, marcher en deux sous un chargement d'âne et ramasser en plus sur le bord du chemin un morveux malvenu et le prendre dans vos bras et le nourrir de bonté légère. Il n'a pas pu. Bien sûr, il s'en est fallu d'un rien qu'il ne m'écrase. Mais, bon sang de Dieu, je ne suis pas mort. Et j'ai appris pour deux, pour moi, pour lui aussi. Je suis content de cela. J'ai fait de lui, non pas le père qu'il ne pouvait pas être, mais un homme. Car de longtemps, il fut à mes yeux toutes sortes de monstres, mais certes pas un être humain. À vrai dire, il fut surtout un bouc. Pas n'importe lequel, l'émissaire, celui que l'on charge de tous les maux et que l'on chasse à coups de pierre hors du village en lui braillant derrière que tout est de sa faute, tout, nos misères, nos lâchetés, notre peur de mourir, le froid qu'il fait, la pluie et nos boutons de fièvre et nos crises de foi. Elle s'en va, la pauvre bête, sous les cailloux, sous les insultes, mais nos maux s'en reviennent. Plus fringant que jamais, et il nous faut chercher encore un autre bouc. Je connais des gens qui passent ainsi leur vie à consommer des boucs, des troupeaux de boucs, des hordes, des peuplades de boucs. Mon père fut longtemps un bouc. Je l'ai changé en homme. J'y ai mis le temps, mais j'y suis arrivé. Dites, n'est-ce pas de la belle sorcellerie ?
air que vous venez d'écouter, c'est Louis A. C'est Henri Gougaud. Et donc, je vais vous redire un peu le résumé de l'histoire. C'est Louis A. n'est pas un personnage de roman, mais un homme bien vivant, même s'il tient à rester anonyme. Ce livre raconte son histoire, de sa lointaine enfance argentine aux événements qui l'ont conduit aux portes de la France, où il demeure aujourd'hui. Il a quitté très tôt la maison de son père, à Cordoba, au pied de la Sierra Grande. Sa mère venait de mourir loin de lui une nuit d'orage. C'était une indienne quechua, et le seul être aimé de sa jeune existence. Il a refusé l'insupportable, il a préféré imaginer qu'elle avait fui la ville, qu'elle était allée rejoindre son peuple dans la montagne. Il est donc parti à sa recherche. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur le chemin de l'impossible, le seul qui vaille aux yeux des fous de la vie. Il a connu, bien sûr, l'omniprésente misère des enfants perdus. Puis un jour, le hasard qui n'existe pas a voulu qu'il rencontre El Chura, le gardien des ruines de Tiahuanaco, l'homme au plumage de renard. El Chura était sorcier, un chaman. Il l'a instruit, puis il l'a poussé vers d'autres lieux, à la poursuite des pierres vivantes et des sept plumes de l'aigle où sont les sept secrets de la vie. C'était donc un extrait de Henri Gougaud, Les sept plumes de l'aigle. Et donc, c'était lu par l'auteur. Vous pouvez trouver ce CD MP3 à la médiathèque de la Part-Dieu. Cet étrange instrument qu'on entend en fond sonore et qui est joué par Anna Petrini, c'est une flûte, alors elle est contrebasse, qu'on appelle Paetzold contrebasse recorder, et c'est et donc c'est un tuyau rectangulaire. Pièce que joue Anna Petrini avec ce drôle d'instrument, cette flûte contrebasse, c'est une pièce d'Oscar Bianchi qui s'appelle Crepuscolo, pareil, qui dure 16 minutes, donc je vous en fais entendre des fonds, des petits extraits. Dans Patchworld, et cette fois c'est un extrait d'un livre de Bernard Werber que je vais vous raconter, qui s'appelle L'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Piège indien. Les Indiens du Canada font usage d'un piège à ours des plus rudimentaires. Il consiste en une grosse pierre enduite de miel, suspendue à une branche d'arbre par une corde. Lorsqu'un ours aperçoit ce qu'il croit être une gourmandise, il s'avance et tente d'attraper la pierre en lui donnant un coup de patte. Il crée ainsi un mouvement de balancier et la pierre vient le frapper. L'ours s'énerve et cogne de plus en plus fort. Et plus il cogne fort, plus il se fait cogner jusqu'à son chaos final. L'ours est incapable de penser. Et si j'arrêtais ce cycle de la violence, il ne ressent que de la frustration. On me donne des coups, je les rends, se dit-il. D'où sa rage exponentielle. Pourtant, s'il cessait de la frapper, la pierre s'immobiliserait et il remarquerait peut-être, alors une fois le calme rétabli, qu'il ne s'agit que d'un objet inerte accroché à une corde. Il n'aurait plus qu'à trancher celle-ci avec ses crocs pour faire choir la pierre et en lécher le miel. L'Inde est un pays qui absorbe toutes les énergies. Tous les chefs militaires qui ont tenté de la mettre au pas s'y sont épuisés. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient à l'intérieur du pays, l'Inde déteignait sur eux. Ils perdaient de leur pugnacité et s'éprenaient des raffinements de la culture indienne. L'Inde est une masse molle qui vient à bout de tout. Ils sont venus, l'Inde les a vaincus. La première invasion d'importance fut le fait des musulmans turco-afghans. En 1206, ils prirent Delhi. 5 dynasties de sultans s'en suivirent, qui toutes tentèrent de s'emparer de la péninsule indienne dans sa totalité. Mais les troupes se diluaient en s'avançant vers le sud. Les soldats se lassaient de massacrer, perdaient le goût du combat et se laissaient charmer par les coutumes indiennes. Les sultans sombrèrent dans la décadence. La dernière dynastie, celle des Lodi, fut renversée par Babur, roi d'origine mongole, descendant de Tamerlan. Il fonde en 1527 l'empire des Moghols et, à peine arrivé au centre de l'Inde, renonce aux armes et s'enthousiasme pour la peinture, la littérature et la musique. L'un de ses descendants, Akbar, sut, lui, unifier l'Inde. Il usa de la douceur et inventa une religion en puisant dans toutes les religions de son temps et en réunissant tout ce qu'elle contenait de plus pacifique. Quelques dizaines d'années plus tard, cependant, Aurangzeb, autre descendant de Babur, tenta d'imposer par la force l'islam à la péninsule. L'Inde se révolta et éclata. Il est impossible de dompter ce continent par la violence. Au début du XIXe siècle, les Anglais réussiront à conquérir militairement tous les comptoirs et les grandes villes. Mais jamais ils ne contrôleront la totalité du pays. Ils se contenteront de créer des cantonnements, des petits quartiers de civilisation anglaise, implantés dans un environnement entièrement indien. De même que le froid protège la Russie, la mer, le Japon et la Grande-Bretagne. Un mur spirituel protège l'Inde et englue tous ceux qui y pénètrent. De nos jours encore, le touriste qui s'aventure ne serait-ce qu'une journée dans ce pays éponge est saisi par les « à quoi bon ?» et les « pourquoi faire ?» et est tenté de renoncer à toute entreprise. Extrait d'un roman de Bernard Werber, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Réunir tous les savoirs de son époque. Telle a été l'ambition du professeur Edmond Wells. Mêlant science et spiritualité, physique quantique et recettes de cuisine, ce savant singulier et solitaire a accumulé tout au long de sa vie des informations étonnantes. Un seul point commun à tous ses textes, donner à réfléchir, faire pétiller les neurones. Le professeur Edmond Wells était un homme plein d'humour qui accordait une grande importance à la notion de paradoxe. Mais de tous les paradoxes, le plus étonnant est certainement le statut même de ce personnage, puisqu'il n'est, on le sait maintenant, que le fruit de l'imagination fertile de Bernard Weber. Thank you. l'œuvre d'art est un rapport précis grâce auquel on peut construire, peindre, sculpter, en enrichissant son œuvre d'une force cachée. À partir de ce nombre ont été construits la pyramide de Khéops, le temple de Salomon, le Parthénon et la plupart des églises romanes. Beaucoup de tableaux de la Renaissance respectent eux aussi cette proportion. On dit que tout ce qui est bâti sans respecter quelque part cette proportion finit par s'effondrer. On calcule ce nombre d'or de la manière suivante. 1 plus racine carrée de 5 égale 2. 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2 égale 1,618,033,988. Tel est le secret millénaire. Ce nombre n'est pas qu'un pur produit de l'imagination humaine. Il se vérifie aussi dans la nature. C'est par exemple le rapport d'écartement entre les feuilles des arbres afin d'éviter que, mutuellement, elles ne se fassent de l'ombre. C'est aussi le nombre qui définit l'emplacement du nombril par rapport à l'ensemble du corps humain. Allez, c'est bientôt la fin de Patchworld. J'avais même pas vu qu'il était si tard. Il est dans quelques instants, Lilith Martin et les autres. Petite info, l'Algérie, le soleil et l'obscur, c'est du 7 au 11 octobre 2015 à l'espace 44, 44 rue Burdeau, Lyon 1er, métro H de métro Hôtel de Ville, Croix-Paquet. Voilà, compagnie La Poursuite, avec le soutien de la compagnie Parlons-en. Et c'est donc de Madeleine Choma, l'Algérie, le soleil et l'obscur, compagnie La Poursuite, avec le soutien de la compagnie Parlons-en, mise en scène Claude Défard. En pleine bataille d'Alger, Madeleine Choma venait